Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Nous sommes, depuis la catéchèse précédente, à Jérusalem, dans la chambre haute, avec les disciples de Jésus, Marie, quelques autres femmes. Et nous avons vu dans la catéchèse précédente, eh bien, comment est-ce qu'on peut, avec les disciples, eh bien, faire mémoire de toutes ces paroles de Jésus sur l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à la Vierge Marie. On va lui demander de nous instruire. Vierge Marie, parle-nous, raconte-nous l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mettons sur les lèvres de la Vierge Marie ces paroles du livre des Proverbes, au chapitre 8. La sagesse n'appelle-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Au sommet des hauteurs qui dominent la route, au croisement des chemins, elle se poste. Près des portes, à l'entrée de la cité, sur les voies d'accès, elle s'écrie « Humain, c'est vous que j'appelle. Ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Simple, apprenez le savoir-faire. Sot, devenez raisonnable. Écoutez, j'ai à vous dire des choses importantes. J'ouvre mes lèvres pour dire des paroles droites. C'est la vérité que mon palais proclame, car le mal est abominable à mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, en elles rien de faux ni de tortueux. Toutes sont franches pour qui les comprend, droites pour qui a trouvé le savoir. Prenez ma discipline et non de l'argent, le savoir plutôt que l'or pur. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et rien de ce que l'on désire ne l'égale. Moi, la sagesse, j'habite avec le savoir-faire. Je possède la science de la réflexion. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la bouche hors torse. À moi appartiennent le conseil et la prudence. Je suis l'entendement, à moi la puissance. Par moi règnent les rois, et les nobles décrètent le droit. Par moi gouvernent les princes, et les grands, les juges légitimes. J'aime ceux qui m'aiment, qui me cherchent avec empressement, me trouvent. Chez moi sont la richesse et la gloire, les biens stables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, mes produits meilleurs que le pur argent. Je marche dans le chemin de la justice, dans le sentier du droit, pour procurer des biens à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Nous pourrions continuer un petit peu. Le Seigneur m'a créé prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes. Avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices, jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants. Car qui me trouve, trouve la vie, et il obtient la faveur du Seigneur. Voilà comme introduction, chers amis auditeurs, ce que nous pourrions mettre sur, non seulement sur la sagesse, mais sur la Vierge Marie à la suite des premiers pères de l'Église, en méditant ces paroles vraiment. Marie est le trône de la sagesse, elle est au cénacle avec les disciples. Nous sommes avec elle, elle est avec nous. Et elle veut nous enseigner la vraie vie. La vraie vie, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie divine en nous, qui passe à travers notre humanité telle qu'elle est, c'est-à-dire limitée, pauvre, fragile, abîmée, même blessée. Et voilà que nos blessures n'empêchent absolument pas la vie divine de s'épancher et de se déployer en nous et à travers nous. Le diable voudrait nous faire croire que comme nous sommes blessés, nous sommes impropres à la vie éternelle. Il nous dit, tu vois, tu es tellement blessé que tu ne pourras jamais y arriver. Tu es malade ? T'es fichu, tu vas mourir, etc., etc. Donc, Dieu n'est pas avec toi, et puis la vie divine, c'est trop compliqué, c'est trop loin, tu souffres trop, c'est... Non, 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 non. Pour le Seigneur, nos blessures, nos fragilités ne sont pas un obstacle. Au contraire, cela déploie en lui sa miséricorde, sa compassion, sa tendresse. Le seul empêchement, c'est notre orgueil. C'est notre orgueil, l'orgueil de notre volonté ou de notre intelligence qui se trompe, qui dirait « Ben non, je suis trop pécheur pour être digne d'être aimé. Je suis trop blessé pour être digne d'être pardonné. Je suis trop pécheur, je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. » C'est nous-mêmes qui mettons des freins, des excuses et des obstacles à l'amour de Dieu. C'est nous, ce n'est que nous. Marie, parle-nous de l'Esprit-Saint, de cette force d'en haut, de cette promesse du Père et du Fils, ce que le Père a promis. Parle-nous de l'Esprit-Saint. Alors peut-être que Marie ne commencerait pas tout de suite par son Immaculée Conception, sa conception immaculée. Peut-être qu'elle commencerait à nous parler de sa petite enfance. Petite fille qu'elle était. Toute ramassée, évidemment, dans l'amour et la lumière de Dieu, présentée au temple. Peut-être qu'elle nous dirait que elle avait une soif de Dieu depuis tout petit. Peut-être qu'elle nous dirait même sûrement, en fait, vous savez, Dieu est tout pour moi. Et Dieu a toujours été tout pour moi. Déjà, c'est pas mal. Question, est-ce que Dieu est tout pour nous? Parce qu'il y a quand même plein d'autres choses dans la vie. Le problème, c'est que nous, on met tout sur le même plan. On a des étagères, des tiroirs, et on a des armoires et on range tout. Alors Dieu, il a son tiroir, le sport, il a son tiroir, les loisirs, le travail, les amitiés, nanani, nanana, et puis donc on a une vie en tiroir, remplie de tiroirs. Et on dit, ben oui, Dieu est présent dans ma vie, regardez, il a son tiroir. Et nous n'avons pas compris encore ce que c'est que la vraie vie, si nous en sommes encore à des tiroirs. Bien rangé, hein ? Ah ouais, depuis tout petit, on m'a dit qu'il fallait ranger ma chambre, alors moi j'ai bien rangé, mais je range tout bien. Frères et sœurs, évidemment qu'il y a des loisirs, évidemment qu'il y a de la détente, des temps de repos, du travail, l'amitié, il y a plein de choses. La vie est remplie de plein de choses. Mais la question est-ce que Dieu est tout pour moi ? C'est peut-être la première chose que Marie nous dirait. Au Cénacle, dans la chambre haute avec les disciples, nous nous apprêtons à basculer dans quelque chose de tout à fait nouveau avec la Pentecôte. Shavuot, la fête juive de Shavuot, va être accomplie à partir d'en haut, à partir de l'accomplissement des promesses du Père, du Fils et du Saint-Esprit, précisément dans l'Ancienne Alliance, on va le voir. Mais Marie est la meilleure créature qui est là pour nous disposer au mieux, pour que Dieu soit tout. Lorsque je pose cette question, frères et sœurs, j'ai bien conscience que nous avons une difficulté, une résistance, et que je mets le doigt sur quelque chose qu'on appelle notre volonté propre. Est-ce que je veux bien, librement, que toute ma personne, toute ma vie soit sous la chape de grâce et de bénédiction et de providence et du pastorat de Dieu et de Dieu seul. Si nous disons oui à ça, alors nous allons être libérés de nous-mêmes, libérés de notre volonté propre, qui petit à petit va laisser du mou et va laisser la volonté divine prendre possession de son règne, comme on le chante dans l'Apocalypse. Marie, dès sa conception, elle ne vit que du règne de la volonté de Dieu dans sa vie, dans sa personne. Tout est serti dans ce règne qui a pris possession de cette petite fille, dès sa conception. Et quand Dieu prend possession, à l'inverse du diable, il ne nous rend pas esclaves comme le diable. Quand Dieu prend possession, il nous rend libres et heureux. Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, maître de tout, nous le disons dans l'Apocalypse. Nous le chantons dans les Vêpres. Quel bonheur que Dieu ait pris possession de son règne, parce que le règne de Dieu a été précisément volé par le diable et par ceux et celles qui ont donné de la place au diable dans leur vie. Ça s'appelle le péché. Quand je pêche, je vole à Dieu le droit qu'il a de régner sur moi et dans ma vie. Je transfère les droits de Dieu sur le diable à qui je donne des droits. Dieu va marquer sa victoire par la création d'une petite créature humaine, une petite fille, qui, dans sa conception, dès sa conception, ne va être l'expression que de la victoire de Dieu. Toute la personne de Marie et toute sa vie, je répète, n'est que à 100%, pas à 99,9, non, 100%, que de la vie divine en caractère de chair et de sang. C'est bien une créature humaine. C'est bien une fille, une jeune fille, une femme, une mère, une épouse de Saint-Joseph, bien concrète. Qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ? Quand je touche Marie, je touche une créature humaine, 100% créature humaine. Est-ce que vivre de Dieu, 100% de Dieu, est-ce que c'est rival de notre humanité ? Voilà la question que je posais tout à l'heure. C'est que quand je dis est-ce que nous voulons bien que Dieu soit tout pour nous, alors nous on prend Dieu un peu comme un rival. On dit qu'est-ce qui va nous piquer ? Qu'est-ce qui va me demander ? Qu'est-ce que je vais perdre ? Ben, réponse, tu vas tout perdre, parce qu'il faut que tu perdes tout pour gagner tout. Il faut que tu perdes ta vie pour gagner celle de Dieu et pour être enfin heureux, enfin libéré de toi-même, enfin de tout ce qui t'opprime, enfin de tout ce qui te tire vers le bas, pour qu'enfin tu vives une vie humaine, c'est-à-dire divine. Car telle est notre vocation, frères et sœurs. L'être humain, c'est quelque chose de très très grand. C'est un être humain, pas angélique. Nous ne sommes pas Dieu non plus. Nous sommes des êtres humains au sommet de cette création, avec une capacité de faire alliance avec celui qui est pur esprit. Dieu est esprit. Et c'est en esprit que le Père cherche des adorateurs. Mais alors, est-ce que si je vis à 100% pour Dieu, en Dieu, par Dieu, est-ce que ça va m'embellir ? Ça va me rendre encore plus humain, parce que Dieu n'est pas rival de l'humain. C'est le diable qui met ça dans la tête des pécheurs, du vieil homme, qui lui a tout le temps peur de perdre. Et qui se dit, si je donne un petit peu de ma vie à Dieu, je vais perdre. Mais oui, tu vas perdre, tu vas tout perdre. Mais joyeusement, heureusement, parce que tu vas gagner Dieu. La première chose que, et ça m'avait marqué, Maria Pavlovitch, une des voyantes à Medjugorje, quand on lui pose la question sur la Vierge Marie, en plus de sa beauté évidemment, comment est la Vierge Marie ? Elle nous dit, c'est une femme déterminée. Ah oui, ça me plaît ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de tergiversation, elle est 100% déterminée. C'est-à-dire que son oui est un oui total, elle n'est que oui à la volonté de Dieu. C'est ça la splendeur d'une créature, c'est d'être un oui à la volonté de Dieu. Ce qui nous déforme, ce qui nous abîme, ce qui nous, déforme précisément, ce sont nos résistances, ce sont nos petits noms. On dit oui, mais quand même, les propositions et les suggestions diaboliques, ça m'intéresse un peu quand même aussi. Allez, un petit peu de médisance, un petit peu de calomnie, un petit peu de colère, un petit peu de jalousie, un petit peu de... Hein ? Ça fait du bien. Maintenant, ça ne fait pas du bien. Ça te déforme. Ça t'abîme. Alors, en présence de Marie au Cénacle, pendant ces 9 jours de préparation intense, je peux vous dire que la détermination des apôtres, des disciples, de tous ceux qui sont là, c'est en train de se rectifier. Il y a tout ce qui traîne en de petits mais, de petits non, de petits je suis pas sûr, de petits doutes, de petits machins. Tout ça, c'est en train de fondre comme neige au soleil. Comment ? En présence de Marie. La Vierge Marie a cette puissance d'irradiation sur nos âmes juste parce qu'elle est. La sagesse, encore elle, renouvelle l'univers, demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers, c'est un verset du, je crois que c'est la sagesse ou proverbe, il faudrait retrouver, mais c'est magnifique. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Alors vous comprenez que la reine des apôtres, de ceux qui vont partir en mission sur le terrain, S'il n'y a pas Marie dans leur cœur, ils n'auront pas le sens de l'apostolat. Ils ne sauront pas ce que c'est qu'être apôtre s'ils n'apprennent pas d'elle à demeurer en eux-mêmes, parce que c'est comme ça d'abord qu'on renouvelle l'univers. L'apôtre, par sa prédication, par toutes les choses qu'il va faire, va transformer l'univers, transformer les cœurs. Ils vont faire plein de choses, les apôtres, ils vont construire des églises, ils vont faire Dieu va faire des miracles, des signes, des guérisons, il y aura des conversions, ils vont construire des églises. Ils vont faire des choses impressionnantes. Ce sera le début de ce qu'on appellera plus tard le christianisme. Oui, il n'y avait pas avant. Allez, c'est une méga transformation de la civilisation planétaire qui va advenir par le don du Saint-Esprit. Donc, c'est pas rien. La source de la transformation, du renouvellement de l'univers, c'est où ? C'est dans cette créature immaculée qui demeure en elle-même. Ah, mais tellement merci Marie d'être là, parce que on comprend qu'elle est source. C'est une source, Marie, pour tous les apôtres. Elle va être reine des apôtres. Elle est reine des apôtres. Elle est mère de Dieu, mère de Jésus, mère des disciples du Christ. Elle est notre mère. Elle est reine des apôtres. Comment est-ce qu'elle est reine des apôtres ? Elle est reine parce qu'elle se laisse couronner par le roi. Elle ne court pas après une royauté. Elle est reine de l'univers. Dès sa conception, dans sa conception. Parce que le Seigneur a gagné. Et qu'elle va bénéficier comme le plus beau fruit de la croix de son fils qui va advenir dans le temps historique un petit peu plus tard, quelques années, une quinzaine d'années, 16 ans, 18 ans, bon, à peu près. Mais elle est déjà, dans toute sa personne, le signe concret, tangible, du règne de Dieu qui est advenu jusqu'à vous, jusqu'à nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, je passe un peu de temps avec vous pour essayer de vous expliquer ce qui est en train de se passer, l'importance de la Vierge Marie. C'est bien au-delà d'une dévotion, j'allais dire, gentille. C'est puissant. La présence de la Vierge Marie au Cénacle et dans nos vies, c'est d'une puissance inégalable. Être en présence de l'Immaculée, ça régénère tout. Oui. D'où l'importance d'apprendre à se mettre en présence réelle de la Vierge Marie. Présence réelle, dans la foi, bien sûr. Oh, on ne la voit pas, on n'est pas tous des voyants, hein, je vous signale. Mais tous, nous sommes appelés à découvrir sa présence et à vivre en sa présence réelle. Et quand nous sommes en présence réelle, non pas imaginaire, vous voyez, un peu... Non, non, réelle, réelle. Par la foi, nous avons accès à la présence réelle de la Vierge Marie. C'est même mieux, j'allais dire, qu'il y a 2000 ans au Cénacle. Alors, en présence réelle de Marie, qui nous parle aujourd'hui de l'Esprit-Saint, on comprend qu'elle est toute à Dieu. Et que le fait qu'elle soit toute à Dieu nous met devant, nous attire. Nous attire pour que nous aussi, nous soyons tout à Dieu. Ça ferait un décalage un peu bizarre, si vous voulez, d'être en présence de la Vierge Marie qui, elle, est toute à Dieu. Et puis nous, on ne pourrait pas lui dire, attends Marie, On va vivre des trucs qui n'ont aucun sens, des trucs nuls, et puis on revient. Je veux dire. Ben, y a plus le temps pour ça. Et puis, ce n'est pas adéquat. En présence de Marie, dans sa détermination, sa détermination attire la nôtre, attire notre oui, attire notre fiat. Moi aussi, Marie, je veux être tout à Dieu comme toi. Voilà. Chaque personne présente au Cénacle est en train de dire ça. Moi aussi, je veux être tout à Dieu comme toi. Parce que c'est elle, la maman, qui fait l'unité de la famille. C'est le Père du ciel, bien sûr, le Père est principe, mais la maman aussi. Quel stratagème d'amour de la part du Seigneur Jésus que de nous avoir donné sa mère. Une famille, une église, une ecclésia qui est apostolique, c'est-à-dire qui va mettre le feu jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien cette église apostolique, avec des gars, avec des gens de toutes sortes, eh bien cette église a une mère. Et c'est elle, sa personne et ce qu'elle vit avec Dieu, qui irradie le cœur de ceux et celles qui l'approchent. Puissance d'irradiation du cœur immaculé de Marie qui est présent au milieu de nous. Alors non seulement elle est belle, si vous voulez, ah ben c'est sûr, je pense que pour sa beauté, ouais. Mais vous comprenez que la beauté de la Vierge Marie est au-delà de l'aspect extérieur. C'est précisément, et j'aime bien cette phrase que Benoît XVI disait, la beauté, c'est le rayonnement de la vérité, de l'amour vrai, pardon, de l'amour vrai. C'est ça la beauté. Quand il y a de l'amour qui est vrai, eh ben c'est beau. On est loin de l'esthétisme, on est loin de la chirurgie esthétique, on est loin des transformations de l'extérieur, si vous voulez. On est très très loin de ça. On est même à des années-lumière. On est juste dans autre chose. La beauté vient de l'intérieur. La beauté de Marie vient de son intérieur. L'intérieur de Marie. Piou. Alors là. Ouh là là. D'ailleurs, les voyants à Medjugorje, ils sont subjugués, évidemment, comme tous les voyants de toutes les apparitions mariales. Ils ont posé la question, comment ça se fait que tu sois aussi belle, quoi? Moi, je pense que mon cœur, il n'aurait pas été en artichaut, si vous voulez. Il aurait été par terre. Il aurait quitté mon corps, mon petit cœur. C'est tellement, j'aurais été attiré. C'est normal. Ils ont posé la question, comment cela se fait-il que tu sois si belle? Et elle a répondu, je suis belle parce que j'aime. Oui. Et je rajouterai, parce que j'aime en vérité. Rayonnement de l'amour vrai. Quand l'amour n'est pas vrai, quand il est un peu gélatineux, un peu intéressé, c'est pas encore ça. Quand la vérité est déconnectée de l'amour, mais ça peut être froid, ça peut être cassant, oui. Ça peut être susciter une peur, une crainte. Or, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et que ce soit dans le cœur de Dieu ou dans celui de cette créature immaculée, eh bien, tout est beau. Tout est beau aussi parce que tout est en ordre. Ouais. Nous avons parlé de la détermination, nous avons parlé de la beauté. Disons un petit mot sur l'ordre. Il n'y a pas de désordre, Marie. C'est juste pile comme il faut. Son attitude, sa manière de vivre, sa manière de prier, sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de s'asseoir, sa manière de travailler, sa manière de regarder, tout, sans exception, tombe pile comme il faut à chaque fois. C'est extraordinaire, c'est un trésor. 30 ans de vie cachée, mes amis, à se régaler. Joseph et Jésus se sont régalés pendant 30 ans. Ouais, ils se sont régalés, ah oui. Parce qu'ils ont mangé. Ouais, ils ont mangé. C'est l'amour passionnel dit ça, je veux te manger. Non, tranquille, reste tranquille. Mais on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est tellement bon, tellement beau, tellement vrai, tellement juste, tellement comme il faut, que ça met en posture extatique, pour de vrai. La passion, si vous voulez, c'est une petite extase, très limitée dans le temps et dans l'espace, si vous voulez. C'est voilà, une petite extase du moment passionnel, quoi. Voilà. Et puis ça retombe comme un soufflé au fromage. Bon. L'extase dont je parle, l'extase du cœur, c'est permanent, puissant, c'est... On est attiré. Et puis, c'est... Ça dure tout le temps. Parce que Marie, elle est toujours attirante. Et encore une fois, j'aime bien reprendre cette réflexion de saint Thomas d'Aquin qui s'est posé la question, il s'en est posé les questions, mais à un moment donné, il dit « Est-ce que saint Joseph a eu des pensées impures ?» Réponse, non. Ouais, bah oui. Parce que quand vous êtes en présence réelle de l'Immaculée Conception, si vous voulez, il n'y a plus de place pour ça, c'est fini. C'est fini, je dis bien en présence réelle. Ouais. Et quand vous êtes en présence de la toute pure, ça vient fondre, ça vient, encore une fois, ça rectifie tout. Ça vient reconsolider tout ce qui était en état de débris et de tas. Ça vient reconstruire, ça vient de l'intérieur, de l'intérieur. De sorte que saint Joseph, il n'avait même pas le temps d'avoir une pensée impure, si vous voulez. Il était devant l'Immaculée, si vous voulez. Il était attiré. Et du coup, il était comblé. Il n'était pas en manque. Il n'était pas à regarder à gauche, à droite. Il n'y avait pas l'espace pour ça. Il était comblé. Comblé par la présence de l'Immaculée. Frères et sœurs, nous sommes au Cénacle. Eh bien, il y a un lien qu'on peut faire entre 30 ans de vie dans un Nazareth et puis 9 jours au Cénacle. 9 jours en présence de l'Immaculée, je peux vous dire que c'était un moment d'extase. Au sens fort, encore une fois, ils ne sont pas au plafond, ils ne sont pas, voilà, vous voyez, ils sont pas allumés dans le sens... ils ne planent pas. Non, la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec le planage, non. Mais ça a à voir avec l'attraction, avec l'extase. C'est-à-dire que on se quitte soi-même, on n'est plus préoccupé par soi, parce qu'on a été détourné de soi, précisément. On a été déraillé. Il y a un train qui est passé et ça nous a déraillé. Ah oui, parce que quand l'Immaculée est là, si vous voulez, ça nous déraille complètement. Ça nous met ailleurs. Ça nous met devant ce qu'elle vit, elle, et non plus devant nos machins qu'on est en train, dans lesquels on se débat jour et nuit, si vous voulez. On se débat. Ah, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir encore ces trucs-là, machin, et on est... Voilà, on est dans nos nœuds. Voilà, quand vous êtes devant Marie qui défait les nœuds, si vous voulez. Ça, mais il ne faut pas, j'allais dire, 15 000 retraites, hein. Il faut juste un regard, un moment de présence, et tout le reste disparaît. Et on se dit, mais j'ai passé des années à me torturer l'esprit sur les trucs. Il suffisait que je me mette en présence réelle de Marie, comme les disciples au Cénacle. Et puis tous les chrounounous d'avant, mais ils auraient été disparus. C'est plus là. Mais oui, comme je vous dis, Pierre n'a plus le temps de penser à son reniement. C'est fini. Et Judas et Thomas, mais Judas il est mort, mais Jude. Simon le Zélote, Thomas, Philippe, Barthélemy, Matthieu et tout ça. Et Marc, Saint Marc, il est disciple, l'évangéliste. Et tutti quanti. Mais vous pensez qu'ils sont en train de faire des réflexions sur la situation politique de la Palestine? Vous pensez qu'ils sont en train, pendant ces 9 jours au Cénacle, de se dire, mais que va advenir la Palestine avec la situation politique? Eh ben non, je vous dis franchement, ils sont pris par autre chose. Ah oui, mais l'Empire romain, ils sont très très méchants, là. Et puis Pilate, là, il va vouloir se venger. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Les chefs religieux. Mais la crainte des Juifs, c'est fini, des autorités religieuses. Pourquoi? Parce qu'ils sont au Cénacle. Ils ont déjà eu deux, trois apparitions, deux, trois visites du ressuscité. Et puis là, ils sont avec Marie en train d'attendre la force d'en haut. Et l'Écriture nous dit qu'ils sont à Jérusalem dans la grande joie, dans une méga joie. C'est un climat de joie, de paix, de prière, assidue à la prière. Quelle conversion! La conversion, frères et sœurs, consiste à d'un coup chercher d'abord le règne de Dieu et sa justesse, et le reste est donné par surcroît. C'est ça la conversion. C'est que d'un coup, je ne me mets plus à me préoccuper de ma pomme, mais je m'occupe de Dieu, et Dieu s'occupe de ma pomme. Ça, c'est la conversion. Et ça se passe par attraction. Puissance d'attraction qui est capable de nous sortir de nous-mêmes et de nous pousser vers. Voilà. Alors, ils sont comme ça, les disciples, et ils nous enseignent beaucoup. Et Marie nous enseigne. Elle nous dit aujourd'hui, je vais te parler de l'Esprit Saint, mais ça va prendre plus qu'une catéchèse, je crois. J'étais parti pour une catéchèse. Mais j'aime trop, frères et sœurs, être en présence de Marie avec vous et lui demander de nous parler de l'Esprit Saint. Et vous avez remarqué que, en fait, elle nous a parlé de l'Esprit Saint, sans dire le mot Esprit Saint, mais elle n'a parlé que de ça. Elle nous a parlé de sa détermination, de que Dieu était tout pour elle depuis toute petite. Qu'elle s'est consacrée à Dieu. Se consacrer à Dieu, ça veut dire quoi? Se mettre un voile sur la tête? Ben non, c'est pas ça. Enfin, si certains veulent, très bien. Mais l'essence de la consécration à Dieu, c'est d'être tout à Dieu. Point. Pour être 100% disponible pour que la volonté du Père s'accomplisse totalement dans notre vie. C'est ça l'essence de la consécration. C'est je suis à toi pour toujours et tu es à moi. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Voilà. Et désormais, ma vie, eh bien, c'est toi, c'est la tienne, en moi. Mais c'est ça, être consacré. C'est pas choisir la couleur de l'habit. Parce qu'avoir un habit sans être consacré, ben c'est dommage. Mais être consacré, c'est juste génial. J'ai rien contre les habits, vous comprenez ce que je veux dire? Marie, Elle est pour nous, chrétiens, la créature qui nous montre ce que c'est qu'être consacré. Nous sommes consacrés par le baptême. C'est une consécration, le baptême, c'est-à-dire que nous échappons aux griffes du démon. C'est bon, c'est fini, c'est terminé, il est détruit, les œuvres du diable sont détruites. On renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Cet attachement à Jésus, c'est l'Esprit-Saint qui nous greffe sur Jésus, on le verra, on déploiera tout ça. Mais c'est la consécration baptismale. Et puis, il y a les consécrations spéciales qui se greffent sur le sacrement de confirmation, c'est la vie consacrée. Et puis, il y a les consécrations de l'ordre, du ministère, le sacrement de l'ordre, etc. Bon. Mais Marie nous parle aujourd'hui de cela. Et on va lui demander de nous parler dans la prochaine catéchèse de l'Annonciation, parce qu'il s'en est passé des choses avec l'Esprit-Saint à l'Annonciation, je vous signale. Elle a juste conçu par l'opération du Saint-Esprit. Bon, alors on garde ça pour la suite. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.